France Culture.
Le journal vous est présenté par Mélanie Kuzelevich.
Bonjour à tous. Mobilisation de soutien à Marine Le Pen, contre-manifestation d'une partie de la gauche et meeting de renaissance, c'est un dimanche politique qui s'annonce. Aux États-Unis, première grande journée d'action contre Donald Trump et son administration, 1200 manifestations de Los Angeles à New York en passant par Minneapolis. L'art pour faire vivre la mémoire. Il y a 80 ans, le camp de concentration de Buchenwald était libéré. Un projet artistique réunit 15 jeunes Français et 15 jeunes Allemands autour d'un texte de Georges Samprin. L'extrême droite, une partie de la gauche et le bloc central se mobilisent aujourd'hui après la condamnation de Marine Le Pen en début de semaine à une peine d'inéligibilité de 5 ans qui compromet très sérieusement ses projets pour 2027. Le RN rassemble ses soutiens à Paris alors qu'une partie de la gauche organise une contre-manifestation, Antoine Maret.
L'extrême droite d'un côté, une partie de la gauche de l'autre, deux forces politiques que tout oppose, à commencer par la culture de la manifestation, peu présente au Rassemblement national. Le parti de Jordan Bardella appelle à battre le pavé des beaux quartiers parisiens à partir de 15h. Manifestation, meeting ou rassemblement, le RN semble hésiter dans la formulation de ce rendez-vous qu'il donne à ses sympathisants, à grand renfort de cars venus de la France entière. Mais la cible, elle, est claire, les juges accusés de tyrannie, eux qui ont condamné Marine Le Pen à l'inéligibilité. À gauche, c'est de l'autre côté de la Seine, place de la République, à 13h, que LFI et les écologistes appellent à se mobiliser contre le Rassemblement national. Ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi, écrit LFI sur X. Mais la gauche, à propos de cette riposte, est divisée. Le PS ne participera pas à ce rassemblement pour ne pas donner l'impression que la condamnation de Marine Le Pen est une décision politique, explique le premier secrétaire délégué du parti, Nicolas Mayer-Rossignol. Le préfet de police de Paris assure qu'il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. Il n'a pas d'informations qui laisseraient penser que les partisans d'un camp pourraient aller perturber le rassemblement de l'autre camp. Mais Laurent Nunez promet d'être extrêmement attentif.
De son côté, le parti Renaissance organise un grand meeting à Saint-Denis, préparé depuis plusieurs mois. C'était l'occasion d'introniser le nouveau chef du parti fondé par Emmanuel Macron, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre qui voulait faire une démonstration de force dans la perspective de la présidentielle de 2027. Mais le rassemblement du RN est venu contredire ses plans, Stéphane Robert.
Pour Gabriel Attal, ce meeting du 6 avril doit marquer le début de quelque chose. D'abord, il doit mettre en lumière sa prise de contrôle du parti du président de la République. L'héritier, c'est lui. La relève, c'est lui. Même si Emmanuel Macron ne l'a pas choisi. Et pour le faire savoir, il a besoin d'organiser ce que son entourage appelle une démonstration de force, avec la présence de plusieurs milliers de personnes autour de lui, à la Cité du cinéma à Saint-Denis. Par ailleurs, il a aussi invité les chefs des partis alliés, qui depuis 7 ans participent à l'exercice du pouvoir en soutien du président. Doivent donc s'exprimer aujourd'hui à la tribune François Bayrou pour le Modem, Édouard Philippe pour Horizon, et puis le président de l'UDI, le sénateur centriste Hervé Marseille. L'idée avec ces invitations est de montrer que c'est encore et toujours, comme du temps d'Emmanuel Macron, autour du parti Renaissance que s'organise le rassemblement, et que c'est donc lui, Gabriel Attal, qui a vocation à diriger la coalition. Le problème apparu il y a quelques jours fut la programmation du rassemblement de soutien à Marine Le Pen, le même jour que son grand meeting d'intronisation. L'équipe de Gabriel Attal y a vu le risque que son champion se fasse médiatiquement voler la vedette. Elle a donc réorienté le message de départ en présentant cet événement comme un contre-rassemblement de soutien à Marine Le Pen et en érigeant Gabriel Attal en défenseur de la démocratie contre les populismes, dans le camp desquels Marine Le Pen est associée à Donald Trump, Vladimir Poutine et Viktor Orban.
François Bayrou, lui, se dit favorable à une fusion entre son parti, le Modem et Renaissance. Dans les colonnes du Parisien, le Premier ministre rappelle qu'il a toujours défendu l'unité du centre. Interrogé également sur les droits de douane imposés par Donald Trump à la France, François Bayrou prévient que ces taxes américaines pourraient coûter plus de 0,5% du PIB à la France. Bercy va réunir les organisations patronales le 14 avril prochain lors d'un premier conseil des entreprises pour préparer la riposte. Les divers rassemblements à Paris seront également suivis avec attention à l'étranger. Depuis le début de la semaine, les accusations de politisation de la justice se multiplient. encore assez rares en France. En Italie, elles sont monnaie courante. Chez nos voisins italiens, les magistrats, longtemps considérés comme des héros, suscitent aujourd'hui la méfiance à Rome. Bruno Duvic.
1992, les juges de Milan arrêtent pour corruption un membre du Parti Socialiste. L'opération main propre commence.
Et cet homme va parler.
Marc Lazare, professeur à Sciences Po et à l'université Louis à Rome.
Et donc dévoiler tout le système de corruption mis en place par les partis de gouvernement. La moitié des députés sont mis en examen, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous coupables.
Les magistrats sont au sommet de leur gloire, derrière leur figure de proue Antonio Di Pietro.
Sur les murs des villes, on pouvait voir « Viva Di Pietro ».
Mais dans un paysage décimé, un homme surgit qui va collectionner les ennuis judiciaires, Silvio Berlusconi.
Il va dénoncer les juges rouges. Berlusconi va jouer sur la mémoire de l'anticommuniste.
Et avec des méthodes parfois brutales et des enquêtes médiatisées, l'image des juges se ternit.
Quel a été leur argument ? Qu'ils avaient peur de l'emprise du politique pour essayer d'entraver leurs opérations de justice. Et donc, ils ont joué l'opinion publique. Et encore une fois, dans un premier temps, ça a fonctionné.
Mais l'opinion se lasse. Après 30 ans de discours anti-magistrats, selon un sondage récent, plus de la moitié des Italiens sont convaincus que les juges sont politisés. L'Italie est un sismographe, dit Marc Lazare.
Il y a des tremblements de terre politiques qui secouent. L'épicentre est en Italie et puis on a des répliques qui arrive jusqu'en France. On y est.
Aujourd'hui, Giorgia Meloni prépare une réforme de la justice qui inquiète les magistrats, pas l'opinion publique.
Le reportage à Rome de Bruno Duvic. Aux États-Unis, première contestation d'ampleur contre Donald Trump. 2 mois après son retour à la Maison-Blanche et ses innombrables décrets pour sabrer le budget de la santé, de l'éducation et pour licencier des milliers de fonctionnaires, des dizaines de milliers d'Américains ont défilé partout dans le pays sous le slogan « Hands off, bas les pattes ». Ceux qui n'ont pas voté pour Trump ont enfin pu exprimer leur colère, comme à New York, Loïc Loury.
Contre la purge du gouvernement fédéral ou l'abandon de l'Ukraine, contre les attaques envers la culture, les droits reproductifs ou le Canada, pas touche à nos institutions et à notre économie, scandaient hier les manifestants, tout à fait remontés comme baisse contre l'actuel président.
Je suis tellement en colère. Il ment comme il respire, il enrichit ses amis, il massacre la Constitution. Il expulse des gens, il n'a d'empathie pour personne. C'est un mélange de cruauté et de stupidité.
Malgré les averses, ils sont des dizaines de milliers à avoir descendu hier la 5e avenue à Manhattan pour cette première grande journée d'action contre le président et son administration. Défilé réussi à New York, en tout cas, estime Aya.
C'est de la folie. C'est la plus grosse manifestation que j'ai vue à New York. Clairement, beaucoup de gens en ont tellement marre. Il faut qu'on se souvienne du pouvoir que l'on a en tant que peuple, en tant que travailleurs.
À charge désormais pour les élus démocrates, bien transparents jusque-là, de saisir la balle au bon. Rien, en revanche, ne laisse présager que Donald Trump sera sensible à cette démonstration d'inimitié venue des 50 États américains.
À New York, Loïc Loury. Il y a 80 ans, le camp de concentration de Buchenwald était libéré. 56 000 détenus ont été exterminés par le régime nazi dans ce camp du centre de l'Allemagne. Parmi les survivants, l'écrivain espagnol Georges Semprin, qui a fait le récit de sa déportation dans L'écriture ou la vie. Un texte dit aujourd'hui à Buchenwald par 30 jeunes Français et Allemands réunis autour d'un projet inédit, Sébastien Baer.
Cette fois, c'est au tour de Michaela, 24 ans, d'interpréter l'extrait qu'elle a appris par cœur.
Des dizaines de yeux exorbités nous avaient regardé passer.
La jeune femme originaire de Bourges est assise près d'une clôture barbelée à quelques mètres du petit camp où sont morts des milliers de déportés.
On voit la cheminée du crématoire, on voit l'entrée de Buchenwald au loin, même les miradors qui sont sur les côtés. Et ça fait bizarre d'arriver dans ce lieu parce qu'on se dit les choses sont réelles.
Entre deux répétitions, le groupe visite le camp guidé par l'équipe pédagogique de Buchenwald. Assis sur un banc au soleil, Mohamed, 18 ans, relit son texte. Pour participer au projet, le jeune homme a abandonné pendant quelques semaines son étal de fruits et légumes sur le marché de Clichy-sous-Bois.
Franchement, je savais rien du tout. Même l'existence du camp, je ne le savais pas. Et quand tu vois ça en vrai, tu lis ton texte devant le crématoire, c'est dingue, ça te fait un choc. T'es obligé de t'imaginer. On a peut-être marché où lui, il a marché.
C'est très beau. C'est ça dont on a besoin.
Jean-Baptiste Sastre donne ses consignes. Il corrige une position, un geste, demande de varier le rythme. Il met en scène le texte avec sa collègue, Yamabas.
C'est une grande joie de voir cette génération s'emparer de ce texte dans ce lieu. C'est aussi ça l'émotion. s'emprunt, c'est poser la question, qu'est-ce qui se passera après la disparition de tout survivant? Et du coup, c'est de là aussi est venue cette idée de transmettre ce texte pour une génération qui pourra continuer à témoigner des camps nazis.
Ma vie s'en va, mais
à l'ombre d'un hêtre, Cindy répète sa chanson. Après Buchenwald, les jeunes artistes seront sur scène à Berlin la semaine prochaine avant de se produire dans un théâtre parisien au mois de juin.
Le reportage à Buchenwald de Sébastien Baer. Le temps pour aujourd'hui, les températures restent douces. Il fera 14 degrés à Nancy, 20 degrés à Paris, 24 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec l'aide de Brice Garcia à la technique ce matin. Guillaume Ficheux.